Radio Okapi. Le journal sur Radio Okapi et voici le sommaire. Kinshasa, ses embouteillages devenus désormais mondialement célèbres et ses pluies diluviennes. Dans ce journal, nous vous dirons tout ce que la capitale de la RDC a vécu ces derniers jours, mais aussi ces dernières heures. Les élèves finalistes du Nord et Sud Kivu n'oublieront pas de sitôt la hors-session de l'examen d'État de cette année 2026. Beaucoup d'entre eux passent ces évaluations dans une vive douleur. Beaucoup n'ont pas pu faire leurs examens à cause de l'insécurité. C'est du centre de Boabo du Nord Kivu, par exemple, ont même obligatoirement marché 24 km aller-retour à pied tous les jours de l'examen pour participer à cette hors-session. Notre invité de ce soir, vous le connaissez bien, une personnalité publique bien connue, mais vous l'avez aussi abondamment entendu et pendant longtemps sur nos antennes. Il est le coordonnateur des opérations humanitaires en RDC. Il est arrivé à la fin de sa mission dans notre pays. Bruno Le Marquis nous livrera son bilan, mais aussi son testament dans un instant. Une nouvelle fois, bonsoir à tous. Le trafic continue de rester globalement embouteillé à Kinshasa. En cette journée de mercredi, un embouteillage d'une ampleur inhabituelle a été observé entre les arrêts DGC et Magasin Kitambo à Kinshasa. La circulation routière a été fortement perturbée dès les premières heures de la matinée. Plusieurs usagers, qu'il s'agisse des conducteurs, des motards ou encore des piétons, ont été contraints de patienter de longues heures, certains immobilisés sans possibilité d'avancer. Le reportage de Jérémy Baraka, rendu ici par John Chiwabwa.
Cette paralysie a entraîné des retards considérables pour les travailleurs, les élèves et les commerçants, impactant négativement les activités socio-économiques de la capitale. Les conséquences sont multiples, perte de temps, impossibilité pour certaines de rejoindre leur lieu de service et abandon du trajet pour d'autres. Témoignages recueillis sur place.
C'est la réglementation de la route. Il faudrait que les policiers de roulage fassent leur travail. On ne les voit pas sur la route. Et les gens font ce qu'ils veulent. Deuxième bande, troisième bande. Et il y a une impunité. Personne n'est puni. C'est un peu ça.
Les autorités peuvent mettre en place des moyens adéquats parce que nous pensons que ça n'est de trop. Les embouteillages, ça commence à 4 heures du matin.
Du côté des piétons, la frustration est également palpable. Certains affirment avoir dû rentrer chez eux faute de passages sécurisés.
Ils doivent vraiment mettre en moyen pour que ce désordre ici s'arrête. C'est comme si l'État est devenu absent. Tout le monde fait ce qu'il veut, surtout nos frères ici des motos.
Face à cette situation, les usagers lancent un appel pressant aux autorités compétentes afin de trouver rapidement une solution.
Kinshasa toujours avec les pluies diluviennes qui n'arrêtent pas de frapper la capitale de la RDC. Hier encore, il a abondamment plu à Kinshasa, mais les pluies qui sont tombées les jours d'avant ont exposé de nombreux quartiers à des risques. À Mongafula, au quartier Plateau 1 par exemple, un éboulement de terre a provoqué la mort d'un homme et causé d'importants dégâts matériels. La population, sous le choc, lance un appel urgent aux autorités pour une intervention rapide. Nancy Atambo.
Les drames s'est produit à proximité de l'église catholique Sainte-Honorine où une maison a été ensevelie par un glissement de terrain entraînant la mort d'une personne. Témoignage d'un habitant.
La population du quartier Plateau 1, nous sommes en train de lancer alerte. Parce que la nuit du 5 au 6, la pluie a causé des dégâts énormes à telle enceinte que nous avons déjà enregistré mort d'homme dans les quartiers. La partie Bambila et le Marsavko est presque coupée. Nous lançons un appel vibrant aux autorités qui nous viennent en aide.
Le bourgmestre de Mongafula, Séverin Lumbu, confirme le fait et appelle au calme tout en invitant la population à assainir son environnement.
Puis vers 22h, il y a eu une maison qui s'est écroulée. La maman était en fête aujourd'hui et le corps a été récupéré. Nous sommes en train de nous battre pour essayer de dégager un peu la route nationale. Mettons-nous ensemble pour essayer de rendre propres nos rues. Devant nous, nettoyons, tirons les caniveaux ensemble et jetons les immondices dans les endroits appropriés.
Une situation préoccupante qui nécessite des mesures urgentes afin d'éviter de nouvelles pertes en vies humaines.
Les épreuves certificatives des examens d'État hors session 2025-2026 se sont déroulées à deux vitesses dans la province du Sud-Kivu, selon que l'on se trouve dans les entités administrées par le gouvernement central ou dans celles sous contrôle du M23. D'après les autorités éducationnelles, le taux de participation des candidats fortement baissé dans la sous-division éducationnelle de Kalehe 1. Cette diminution est attribuée à la psychose provoquée par les récents affrontements survenus dans les hauts plateaux des Iralo entre le M23 et les Oazalendo. Jean Kassami.
Selon différents responsables des sous-divisions éducationnelles du Sud-Kivu, la déperdition des effectifs a été plus observée dans les zones récemment marquées par des violences armées entre les belligérants. Mahesh Interani Pascal dirige la sous-division éducationnelle Kalehe 1.
Nous avons connu un abandon terrible de 12%, soit 440 élèves. Les causes sont généralement l'instabilité sécuritaire dans certaines zones. Même si les épreuves sont prises en charge par le gouvernement central,
ailleurs, comme dans les territoires de Fizi, en majorité dirigés par le gouvernement, il y a eu aussi des perditions des effectifs bien qu'à faible échelle. Et Nundu Selemani César, chef de la province éducationnelle Sud-Kivu 2.
Nous avons remarqué peu d'abandon, oui, cela est dû peut-être à la situation sécuritaire qui prévaut dans notre entité. La plupart des élèves, ils ont répondu au rendez-vous.
Ici, la gratuité de la participation aux épreuves a motivé plusieurs élèves à braver les contraintes des barrières payantes sur certains axes du territoire de Fizi. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Vous le savez peut-être, pour la première fois, les finalistes du secondaire en République démocratique du Congo passent cette année une épreuve orale d'anglais lors de la dissertation. À ce sujet, le chef du département des lettres civilisation anglaise de l'université pédagogique de Kananga, le master Sylvain Chitoko, salue cette décision du gouvernement congolais. Selon lui, cette initiative doit encourager les élèves à s'investir davantage dans l'apprentissage de l'anglais, considéré comme une langue de la mondialisation. Il invite toutefois les enseignants à adapter leurs méthodes pédagogiques afin de permettre aux élèves d'atteindre un niveau suffisant pour réussir cette épreuve orale sans difficulté. Le master Sylvain Chitoko au micro de André Katende.
Vous savez que l'anglais, c'est une langue que beaucoup de nos élèves négligeaient au secondaire. Alors, ils ne savaient pas que l'anglais était une langue très importante dans le monde qu'ils devaient apprendre. Donc, les élèves maintenant seront stimulés à apprendre l'anglais. Je pense que certains iront même dans des centres pour qu'ils apprennent. Pour le moment, ils n'ont pas les niveaux parce qu'ils négligeaient l'anglais. Mais ce qu'il faut faire, que les enseignants changent les méthodes d'apprentissage. Il faut savoir que l'anglais est une langue internationale. C'est la première chose. C'est la langue qui donne l'accès aux affaires. C'est la langue de commerce. C'est la langue de l'information et de communication. Pour le moment, celui qui ne sait pas utiliser l'outil informatique et qui ne connaît pas l'anglais est considéré comme un illettré. C'est une langue de recherche.
Province du Congo central, les jeunes du quartier Soyo, dans la ville de Matadi, alertent sur une insécurité grandissante depuis plusieurs mois. Selon eux, des hommes armés, parfois vêtus comme des policiers, mènent des incursions nocturnes dans les habitations, emportant argent, objets de valeur. Face à ce qu'ils considèrent comme un manque de réaction des autorités, les jeunes ont mis en place des patrouilles nocturnes pour sécuriser leur quartier. Élisée Chikota pour plus de détails.
D'après les jeunes du quartier Soyo, cette initiative est le fruit d'une concertation avec les parents afin d'assurer tant soit peu la sécurité de la population. Pour soutenir les patrouilleurs, une collecte est organisée et chaque soir fixée à 500 francs congolais par ménage. Témoignage d'un jeune habitant.
Nos policiers, combien de fois avons-nous appelé à l'aide, mais ils ne font rien. C'est pourquoi nous-mêmes jeunes du quartier avons pris les choses en main. Si nous ne faisons rien, les mamans et papas du quartier ne font que se lamenter. Dès qu'il est une heure, tout le monde se réveille. Pour dormir, il fallait attendre à moins 5 heures du matin.
Le commandant de la police nationale de Matadi, le colonel Baudouin Kalima, appelle pour sa part à une étroite collaboration entre la population et les services de sécurité.
Nous avons un numéro vert de la ville qui était distribué même dans des communes, dans des églises, partout là. Voilà. Les gens doivent avoir la culture d'avoir les numéros des interventions. L'opération a l'unique mission de nous informer. Si telle maison a un problème, le voisin là peut appeler à la place de l'autre. Les mâles est que beaucoup de gens ne dénoncent pas. Tout le monde doit être complice pour avoir la sécurité. Et la population, et nous, les agents de la police.
Selon les habitants, depuis la mise en place de ces patrouilles, les nuits sont redevenues paisibles. Une situation qui paraissait impossible il y a quelques mois.
Autre manifestation de la population, cette fois à Lubero Centre, où la population observe aujourd'hui son troisième jour de journée ville morte. Elle a répondu à l'appel de la société civile qui a décrété l'arrêt de toutes les activités pour protester contre l'insécurité dans la zone. En l'espace de 4 jours, 6 personnes ont été tuées dans différentes localités, dans des circonstances tragiques impliquant en majorité des hommes armés présumés combattants aux Azalendo. Les détails de Martial Papimukeba.
Lundi 4 mai, dans la localité de Biamba, un présumé élément des FRDC a abattu sa femme de 23 ans à la suite d'une incompréhension. La victime est morte sur le coup, selon des sources militaires. Le même jour, à Mangourou-Jipa, chef-lieu du secteur de Bapéré, une jeune fille a été tuée par un présumé combattant Wazalendo. Ces cas s'ajoutent à un autre meurtre survenu dimanche dans ce même secteur où une femme a été tuée par un homme armé présumé Wazalendo. Toujours le dimanche, à Kimboulou, un motard et sa cliente ont été retrouvés tués par balle près des campements Wazalendo. Face à cette série de violences, la population de Lubero Centre et ses environs revendique la fin de l'insécurité à travers ces journées ville morte décrétées par la société civile. Le colonel Anle Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero, annonce des arrestations.
Les journées ville morte est due aux exactions commises par certains éléments incontrôlé de Wazalendo, notamment le meurtre d'un motard. Il y a aussi sa cliente. Les auteurs sont déjà arrêtés. Il y a déjà une audience foraine qui se tient déjà au niveau de Kimboul.
Pour l'instant, toutes les activités sont paralysées à Lubero Centre. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Province de Sankourou, le président de l'Assemblée provinciale appelle les députés à regagner Lusambo, chef-lieu de province. 10 jours après qu'ils aient massivement quitté la province pour Kinshasa, les travaux parlementaires sont quasi à l'arrêt alors que la session en cours est consacrée au contrôle parlementaire. Le récit ici est de Esther Ndalafina.
Dans un communiqué publié la semaine dernière, le président de l'Assemblée provinciale Salomon Osako demande aux députés provinciaux de revenir sans délai à Lusambo. Il rappelle que la session actuelle doit se poursuivre normalement en attendant l'audition du programme et l'investiture du nouveau gouverneur élu le 15 avril. Selon lui, l'absence prolongée des élus perturbe le fonctionnement de l'institution. Le président de l'organe délibérant invoque l'article 52 du règlement intérieur qui impose aux députés l'obligation de siéger pendant toute la durée des sessions. Le communiqué précise toutefois que 4 députés ne sont pas concernés par cet appel sans plus de détails. Pour rappel, depuis l'élection du gouverneur et vice-gouverneur, l'hémicycle tourne au ralenti. Sur les 24 députés provinciaux, 19 ont quitté la province pour Kinshasa, un départ collectif qui avait suscité de vives critiques au sein même de l'Assemblée provinciale. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En dehors de la RDC, la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris a décidé aujourd'hui d'annuler le non-lieu accordé l'année dernière à l'ex-première dame rwandaise Agathe Abiarimanane Kanziga. L'audience devrait initialement se tenir le 8 avril dernier, mais la Cour d'appel avait demandé la prorogation du délibéré sans donner plus d'explications.
L'invité.
Le coordonnateur des opérations humanitaires en RDC, Bruno Lemarquis, a clôturé hier sa visite en Ituri où il a échangé avec le gouverneur, les acteurs humanitaires ainsi que les déplacés de la plaine de Savo, territoire de Djougou. Il indique qu'il s'agit de sa dernière mission dans l'est de la RDC après 4 années passées à ce poste. Il fait le point sur la situation humanitaire dans cette région, les défis qui persistent. Il avance aussi quelques pistes de solutions durables pour sortir de la crise humanitaire et sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Bruno Lemarquis au micro de Isaac Raymond.
Bonjour Bruno Lemarquis.
Bonjour.
Vous effectuez votre dernière visite à Ituri et dans l'est de la RDC. Quelle est la portée de cette mission qui vous a conduit notamment à Djougou, une zone où la situation reste très préoccupante?
Alors c'est une mission, pour moi, je boucle la boucle puisque l'endroit où on se trouve là, qui s'appelle Plaine Savo, c'est l'endroit où j'avais fait ma première mission en RDC en mars 2022. À l'époque, il y avait eu un grand massacre. Plus de 60 personnes avaient été tuées dans ce même site. Si je parle de Plaine Savo, c'est emblématique un peu de beaucoup de situations à l'est de la RDC par rapport à ces cycles de violence, ces cycles de représailles qui tournent, et avec les populations civiles qui sont les premières victimes. Ici, en Ituri, il y a 900 000 déplacés de personnes qui sont toujours déplacées internes. Donc ce sont des chiffres très très élevés si on le ramène à la population de la province.
Depuis votre prise de fonction, comment a évolué la situation humanitaire sur le terrain? Parlez-vous aujourd'hui d'amélioration ou plutôt de détérioration?
Quand on compare les chiffres à l'époque et maintenant, c'est toujours entre 6 et 7 millions de déplacés internes. Beaucoup de personnes qui retournent chez elles, donc plusieurs millions chaque année de personnes retournées. Mais si des personnes retournent, d'autres personnes se déplacent. Donc ces chiffres, ils restent toujours très 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 élevés. La crise de la RDC, c'est essentiellement une crise des déplacements de population, des boucles sans fin, et puis des problèmes de protection. Protection de l'enfance, problèmes de violence basés sur le genre, les problèmes de violence sexuelle liés au conflit. Ça, c'est vraiment les marqueurs de cette crise congolaise.
Quels sont aujourd'hui les principaux défis qui persistent?
Peut-être mentionner 3 choses. D'abord, il y a eu la crise du M23 qui a entraîné un grand changement des besoins humanitaires. Le deuxième marqueur de cette période, ça a été la chute drastique des ressources humanitaires au niveau global, mais qui ont affecté la RDC. Pour donner quelques chiffres, en 2024, la réponse humanitaire en RDC a été financée à 50% et on avait réussi à mobiliser 1,3 milliard de dollars. En 2024, donc on est passé de 51% de financement à 27%. Donc il y a eu une chute massive. Et là maintenant, on est au mois de mai 2026, on est financé à peu près à 330 millions de dollars, alors que les besoins sont toujours aussi importants. Donc au niveau des acteurs humanitaires, maintenant on fait ce qu'on appelle l'hyper-priorisation. On doit vraiment prioriser sur les personnes les plus vulnérables, notamment les populations déplacées. On incite les humanitaires à ne plus jouer un rôle qui devrait être le rôle de l'État congolais, notamment pour tout ce qui est la fourniture de services sociaux de base. Donc on est en discussion permanente avec l'État congolais sur ce sujet, comment aider la montée en gamme, la montée en puissance de l'État congolais avec ses partenaires de développement pour que la prise en charge des services sociaux de base ne soit plus laissée aux humanitaires qui ne peuvent plus le faire aujourd'hui.
Selon vous, quelles solutions durables peuvent permettre de sortir de la crise sécuritaire et humanitaire à Ituri et plus largement dans l'est de la RDC?
Bon, moi, dans ma tête, il y a toujours 4 choses. La première, c'est les processus de paix, la volonté politique, les processus politiques, les processus diplomatiques. Donc les processus actuels, c'est le processus de Doha, temporairement délocalisé en Suisse, c'est le processus de Washington, c'est le rôle très important de l'Union africaine, donc ça ce sont tous les grands processus diplomatiques, notamment pour la crise liée à la crise du M23. Il y a tous le règlement pacifique des conflits, notamment en RDC. Il y a eu le processus de Arou 1, Arou 2, donc ça c'est les processus au niveau de la province qui sont très très importants pour arriver à trouver une résolution pacifique des conflits, les conflits entre communautés qui entraînent tous ces déplacements. Donc ça c'est au niveau de la paix, c'est vraiment le premier facteur pour réduire les besoins humanitaires. Le deuxième, qui est vraiment très complexe et à long terme, c'est comment s'attaquer aux causes sous-jacentes des conflits qui touchent à la question de l'accès aux ressources, l'accès à la terre, tout ce qui touche à l'exploitation illicite des ressources naturelles. Donc, tout ça, ça contribue au cycle de violence. Donc, ensuite, il faut toujours travailler, dès qu'il y a des opportunités, sur ce qu'on appelle le nexus entre humanitaire, développement, paix, pour faire en sorte que dès qu'il y a une stabilisation, dans une zone, dès qu'il y a un retour au calme, les acteurs de paix, les acteurs de développement, les acteurs humanitaires travaillent ensemble pour, par exemple, appuyer le retour des gens chez eux, le retour des déplacés, ce qu'on appelle les solutions durables. Ici, il y a une initiative remarquable sous le leadership du gouverneur de l'Ituri, mais il y a la même chose au Tanganyika. Par exemple, de trouver des terres pour ces déplacés qui veulent se réinstaller quelque part. Et tout ça, ce sont les choses qui feront qu'un jour, en RDC, il y aura beaucoup, beaucoup moins de besoins humanitaires.
Prenons les marquis, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Fin de ce journal, merci à Pierre Diassinois, Élisée Chikota et Lévin Mbwinga pour leur appui éditorial. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.